Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler les bases de la coopération franco-allemande. Ensuite, m'intéresser au projet en cours, qui pour certains semble marquer le pas, et tenter d'apporter quelques explications à ce ralentissement. Je précise que je suis revenu de Berlin il y a 4 ans, donc je ne baigne plus quotidiennement dans le franco-allemand, mais je pense qu'il y a quelques constantes qu'on peut mentionner. Comme l'a expliqué Jean Amiot tout de suite, donc l'Allemagne et la France sont des partenaires de longue date, et en particulier dans le domaine de la coopération d'armement. Il y a presque 60 ans, en 1963, la France et l'Allemagne ont engagé une coopération de défense avec le traité de l'Élysée, qui a été donc le début d'une série de projets communs dans le domaine de l'armement et qui ont donc permis, comme le souhaitaient le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, de développer une confiance mutuelle et de sceller la réconciliation entre nos deux pays. Au sommet franco-allemand bisannuel, né du traité de l'Élysée, ont succédé 40 ans plus tard, en 2003, les conseils des ministres franco-allemands. Vous avez entendu, j'imagine comme moi ce matin, que le prochain conseil prévu le 26 octobre est annulé, officiellement pour des questions d'agenda. Symbole fort de la coopération entre les deux pays, ces conseils, lorsqu'ils ont lieu, réunissent lors d'une session commune les exécutifs des deux pays et favorisent un rapprochement des processus de décision. Souvent se tient également, adossé à cette instance de décision politique pour l'action commune des deux gouvernements, ce qu'on appelle le CFADS, un conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui existe depuis 1987. Ce conseil est présidé par le président de la République et le chancelier, et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays y participent. Cette structure permet aux deux États d'harmoniser leur action en matière de défense et de sécurité. Donc le CFADS est un organe de coopération structurée auquel rapportent différents groupes qui se réunissent régulièrement. Dans le domaine de l'armement, le groupe concerné c'est le GTCA, donc le groupe technique de coopération d'armement, qui est co-présidé pour la France par le DGA, ou son représentant, et pour l'Allemagne par le directeur des équipements du ministère fédéral de la Défense. Au cours de ces rencontres régulières, sont présentés les résultats des travaux de plusieurs commissions et de groupes spécialisés sur des sujets comme les projets, la recherche et la technologie, les systèmes d'information ou encore la coopération industrielle. Donc le dialogue franco-allemand au sein de ce groupe dans le domaine de l'armement est, je dirais, naturel et se décline à tous les niveaux.
Cliquez sur la suite. Voilà, c'est bon.
Donc, depuis la signature du traité de l'Élysée, de nombreux programmes d'armement ont vu le jour, comme l'a expliqué Jean, dont certains sont encore en utilisation, puisqu'il y a eu les programmes de missiles d'infanterie Milan, ou anti-char Hoth, ou encore donc, le Solaire Roland, les avions Transal, l'avion d'entraînement et d'appui tactique Alpha Jet, pour ne citer que ceci. Comme l'a dit également Jean Amiot, des projets communs n'ont malheureusement pas abouti, donc effectivement le char de combat des années 80, mais je citerai aussi le drone Brevel ou encore les missiles anti-char de troisième génération. Tout ça s'est passé à la fin des années, enfin au début des années 90, et on peut moi j'imagine que le changement de contexte international avec la chute du mur de Berlin n'est sans doute pas étranger au ralentissement de la coopération à la fin du siècle dernier. Malgré tout, la dynamique bilatérale a permis à l'Allemagne et à la France d'être à l'initiative de la création en 1996 de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, l'OCCAR, à laquelle se sont joints d'autres grands pays européens comme le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne. C'est ainsi qu'ont été lancés les grands programmes européens auxquels participent l'Allemagne et la France, comme l'avion de transport A400M ou l'hélicoptère de combat Tigre. Parallèlement, les entreprises des deux côtés du Rhin, qui ont appris à travailler ensemble sur les nombreux programmes d'armement communs depuis les années 70, ont fini par former en 2000 le groupe EADS, auquel l'Espagne s'est également associée, qui est devenu en 2014 le géant européen Airbus. Autre initiative importante dans le domaine industriel, le secteur terrestre, qui était extrêmement morcelé en Europe et qui a vu se constituer à l'initiative des entreprises Nexter et KMV, la société KNDS, mais dont le général secrétaire de ville vous parlera tout à l'heure. J'en suis honte. Alors qu'en est-il de la coopération franco-allemande de ces dernières années? Dans le domaine aérien, la France et l'Allemagne ont lancé le SCAF, le système de combat aérien futur, qui est après celui de la 400M l'un des principaux programmes d'armement aérien européen. Annoncé en 2017 lors d'un conseil des ministres franco-allemand, le SCAF est un système de combat collaboratif autour de l'avion de combat de nouvelle génération qui associera des avions de transport, en particulier la 400M, des essaims de drones de combat, des futurs missiles, etc. Ce système sera connecté par satellite, permettra des liaisons, une interopérabilité entre les forces terrestres, navales, mais aussi les forces alliées. Dès la fin 2018, les deux gouvernements, après la signature d'une lettre d'intention qui désigne la France comme nation leader sur le projet, ont annoncé le lancement d'une étude commune de concept d'architecture du SCAF et d'activités de démonstration technologique sur l'avion de combat nouvelle génération, ainsi que sur le moteur. La France et l'Allemagne ont donc confié un contrat à Dassault et à Airbus. C'est un programme qui, donc, à l'origine, était franco-allemand, qui a pour vision l'Europe de défense et sa souveraineté, mais aussi le développement de la base industrielle et technologique de défense en Europe. Et c'est dans ce contexte que l'Espagne a rejoint le programme en février 2019. Bon, on sait depuis que les Britanniques, les Suédois et les Italiens ont lancé leur propre programme concurrent, le Tempest, ce qui remet un peu en question l'idée d'un système commun en Europe. Il faut aussi mentionner le projet de drone MAL européen, l'Euromal, pour lequel l'Allemagne a été désignée leader du projet avec Airbus comme maître d'œuvre et Lockheed comme agence contractante. Le contrat de développement a été signé par l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne le 24 février dernier. Sa livraison est prévue en 2029. Dans le domaine terrestre, je vais parler rapidement parce que le général Saint-Pierre de Ville va donner davantage de détails, mais c'est sûr que l'initiative majeure qui a été prise en 2018, c'est le lancement du programme franco-allemand pour le char de combat du futur. Donc, ce qu'on appelle le MGCS, Main Ground Combat System. En contrepartie des choix faits en sens inverse pour le SCAF, le leadership politique et industriel du MGCS a été confié à l'Allemagne, dans une logique néanmoins où les retours financiers doivent rester à parité pour les deux pays. Dans le domaine naval, à ma connaissance, les réalisations communes ne sont pas légion, mais s'agissant de l'aéronavale, la coopération opérationnelle et technique entre la France et l'Allemagne a été importante au cours des années 60 grâce au programme d'avions de patrouille maritime atlantique. Cette période s'est cependant éteinte lors des décisions différentes des deux pays pour la rénovation et le remplacement de cet appareil. L'Allemagne a retiré du service ses derniers Atlantiques en 2010 et exploite dorénavant des avions P3C Orion de fabrication américaine. Quant à la France, elle a lancé un programme de modernisation de ses Atlantiques. Au cours du salon ILA de 2018 à Berlin, une lettre d'intention entre les deux ministres de la Défense a été signée en vue de développer en commun la prochaine génération d'avions de patrouille maritime. Donc c'est le programme MOSE, Maritime Airborne Warfare System. Je reparlerai après. La progression de l'idée de défense dans l'opinion publique allemande, dans un premier temps face aux menaces terroristes, et à l'intensification des opérations extérieures de la Bundeswehr, puis plus récemment face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aurait pu ou pourrait favoriser le développement de la coopération d'armement afin de doter nos armées des capacités dont elles ont besoin. La décision de l'Allemagne de se doter d'un plan d'équipement spécial de 100 milliards d'euros participe de cette volonté. Ça lui permettra d'ailleurs de pouvoir atteindre l'objectif fixé par l'OTAN de consacrer 2% du PIB national par an à la défense. Comment ça se traduira effectivement? Les responsables militaires allemands se plaignent régulièrement de pannes sur leurs avions de chasse, sur leurs bâtiments, sur leurs chars. Il est probable que ce fonds servira déjà à remettre à niveau les équipements de la Bundeswehr dans un premier temps. Par ailleurs, l'Allemagne ne veut plus seulement être un moteur économique. Elle veut aussi jouer un rôle stratégique. Notre armée doit devenir le pilier, je cite, de la défense conventionnelle en Europe, a déclaré le chancelier allemand en septembre. Ce changement radical de position est certes imputé à l'électrochoc de la guerre sur le flanc est de l'Europe, mais ça peut paraître également surprenant de la part d'un gouvernement de coalition où participent des ministres écologistes, traditionnellement pacifistes. Une des premières décisions a d'ailleurs été de mettre sur pied autour de l'Allemagne une alliance de 14 pays membres de l'OTAN pour l'acquisition en commun de matériel de défense antiaérienne et antimissile. Le projet vise en particulier à favoriser l'achat de systèmes Iris T et Patriot en vue de renforcer, je cite, considérablement notre capacité à défendre l'Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles, a indiqué le secrétaire général adjoint de l'organisation, Mircea Giovanna. On constate que la France, dispose déjà d'un système de défense solaire de moyenne portée intégré dans la chaîne du contrôle du commandement aérien allié de l'OTAN n'est pas associé à cette initiative allemande. Par ailleurs, on assiste incontestablement à un certain ralentissement du dynamisme de la coopération franco-allemande, en particulier sur les programmes emblématiques que sont le SCAF ou le futur char de combat. Peut-on avancer quelques explications ? Alors, bien sûr, il y a des raisons politiques qui font que l'Allemagne et la France ne suivent pas toujours la même ligne. Je pense en particulier à la relation particulière qu'entretient l'Allemagne avec les États-Unis. L'Allemagne est un partenaire important au sein de l'OTAN, on le voit avec l'initiative qu'elle vient de prendre dans le domaine de la défense antiaérienne. Elle a fait le choix du F-35 pour remplacer le Tornado dans son rôle de porteur de l'arme nucléaire. Elle a sélectionné le Boeing P-8A Poséidon pour remplacer ses P-3C Orion, mettant à mal la coopération franco-allemande envisagée sur le programme Mose, dont je vous ai parlé tout de suite à l'instant. Même si, vu de Berlin, le F-35 et le Poséidon sont considérés comme des solutions intérimaires. Autre cause de difficulté, l'armée française et la Bundeswehr ont des missions et des besoins différents. Le renouvellement d'une flotte aéro-maritime est un outil indispensable à notre dissuasion nucléaire. Certaines doctrines d'emploi des forces aéronavales diffèrent des deux côtés du Rhin et engendrent des besoins qui ne sont pas totalement convergents. Pour le SCAF, vous savez, la France a également des besoins opérationnels différents, en particulier pour une utilisation aéronavale ou encore l'emport de l'arme nucléaire. S'agissant de l'Euromale, l'armée de l'air française voulait un drone monomoteur polyvalent, en particulier pour être utilisé au-dessus des zones d'opération extérieures. Et finalement, l'Allemagne a réussi à obtenir un drone plus gros, bimoteur, pour être certifié en navigabilité selon les critères d'un aéronef civil et pouvoir survoler le territoire allemand. Donc, ce qui alourdit bien sûr les spécifications et donc le coût sera forcément plus élevé. Par ailleurs, le gouvernement allemand, et c'est aussi une décision politique, il a inscrit dans son contrat de coalition que l'Euromale serait utilisé prioritairement à des fins de surveillance. Alors que la France, de son côté, a confirmé récemment que ces drones auront une capacité de tir de missiles et de bombes guidées. Autre cause potentielle de difficulté, le rôle que veulent jouer les industriels de part et d'autre, peut-être que le général Sinclair David développera ce point, mais moi je constate quand même que si la France a souvent fait le choix d'européaniser entièrement son industrie nationale, l'Allemagne a presque dans tous les domaines gardé parallèlement un concurrent domestique potentiel de bon niveau. Les missiles sont partis chez MBDA, mais il y a toujours deal. KMV s'est rapproché de Nexter, mais Rheinmetall est une entreprise allemande très présente dans le domaine des blindés et qui veut aussi jouer son rôle dans le MGCS. Dans le domaine des satellites, il y a Airbus, mais l'Allemagne a sur son sol l'entreprise OHB qui propose des solutions concurrentes. Bref, l'existence parallèlement au groupe européen d'entreprises allemandes qui veulent légitimement proposer leurs produits ne facilite pas forcément la coopération. Un autre point de divergence notable et qui ne facilite pas le déroulement des programmes en coopération, mais là je pense que Jean pourrait vous en parler autant que moi, c'est les organisations différentes, à commencer par le rôle du Parlement en Allemagne, puisque en matière décisionnelle, l'exécutif allemand doit obtenir l'aval du Bundestag et pour toute dépense au-delà de 25 millions d'euros, l'accord de la commission du budget, qui est l'organe du Parlement devant lequel chaque ministre de la Défense a l'obligation de présenter pour délibération toute acquisition, même si elle est déjà prévue dans le cadre de la loi de finances. A contrario, vous le savez, en France, la LPM, une fois qu'elle a été discutée en commission de défense et votée par le Parlement, donne plus de latitude à nos ministres. Par ailleurs, la France et l'Allemagne ont deux organisations d'acquisition d'armement fondamentalement différentes. Au sens, il est difficile de comparer la DGA qui est plus unitaire, qui a une vision globale qui va de l'innovation de défense jusqu'à l'élimination des matériels, en incluant la préparation de l'avenir, la conduite de programme ou l'accompagnement de l'exportation. Difficile de la comparer avec l'organisation allemande qui est bicéphale et parfois à mes yeux redondante. Vous avez d'un côté le ministère fédéral qui est situé à Berlin et à Bonn, avec une division en charge des équipements qui se consacre essentiellement aux fonctions dites ministérielles, c'est-à-dire les relations avec le Bundestag et les activités stratégiques. Puis d'un autre, vous avez le BAIMBV, qui est l'Office fédéral pour les équipements, la technologie de l'information et l'utilisation, qui lui est situé à Koblenz, et qui conduit les programmes et assure la tutelle des centres techniques. Par ailleurs, la division en charge des équipements et le BAIMBV ne sont impliqués qu'à partir du moment où le programme est lancé. C'est-à-dire que toutes les questions importantes qu'on doit traiter en amont ne sont pas du ressort de la fonction armement et relèvent de la division planification, ce qui ne facilite pas non plus la compréhension entre nos deux organisations. Enfin, last but not least, dernière difficulté qu'on peut relever, la France et l'Allemagne ont des visions différentes de l'exportation d'armement. Dans le domaine des exportations d'armes, la mise en œuvre du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, qui a prolongé le traité de l'Élysée et qui a été signé au jour anniversaire, c'est-à-dire le 22 janvier 2019, ce traité devait conduire également à la modernisation du fameux accord de Brechmitt de 1972. C'est un accord qui permettait au départ aux deux pays d'autoriser avec une certaine souplesse les exportations d'armes résultant des programmes communs. Mais les positions allemandes ont eu tendance avec le temps à se durcir dans l'application de ces causes et parfois à compromettre ou compliquer avec les années des opérations autorisées par la France et ce qui a pu être, ce qui est peut-être encore d'ailleurs, la source de vives tensions. Quand j'étais à Berlin, il se passait pas un jour, peut-être Nicolas peut le confirmer, sans que je reçoive un coup de fil d'un industriel français qui me demandait d'intervenir auprès des autorités allemandes pour essayer de débloquer une licence d'exportation dans une situation particulière. Et là encore, on a des organisations différentes, parce que le contrôle des exportations ne dépend pas du ministère fédéral de la Défense, mais de celui de l'économie et d'un office qui est situé à Francfort. Bon, la guerre en Ukraine a sans doute changé la situation, mais la vision de la population allemande était plutôt critique vis-à-vis des exportations. Et cependant, l'export est un élément décisif du retour sur investissement lié à un programme, et donc une part significative de l'attrait économique d'un programme commun entre la France et l'Allemagne. Donc pour conclure, tentative de conclusion optimiste, je dirais qu'il ne suffit pas d'avoir des programmes structurants et novateurs, des calendriers compatibles et des besoins capacitaires similaires pour mener à bien des projets communs. Je pense que chacun souhaite, c'est tout à fait légitime, que ses intérêts et ses contraintes politiques ou réglementaires soient pris en compte. Et pour que ça marche, il n'y a pas de secret, même si ce n'est pas simple, il faut tenir compte de ces réalités et donc dialoguer en permanence et être prêt au compromis de part et d'autre.